franceinter.fr. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9.
Les Vierges de Satan ou Dracula, Prince des Ténèbres. Autant de films issus des studios de la Hammer. Deux livres parus aux éditions Aquileos nous plongent dans l'univers de cette maison de production anglaise qui a révolutionné le genre du film fantastique. La Hammer est à l'affiche de votre Pop & Co ce matin, Rebecca Manzoni.
Avec les films de la Hammer, le fantastique est en couleur. Et c'est la première fois que le rouge sang éclate sur grand écran. Il dégouline le long des babines, celle de Christopher Lee, acteur vedette de la maison qui va incarner le comte Dracula pendant une vingtaine d'années à partir de 58. La Hammer, c'est d'abord la voix de cet homme qui vous accueille au château.
I am Dracula and I welcome you to my house.
Mais les moments où Dracula s'apprête à mordre sa victime, femme, jeune, en nuisette vaporeuse, habitée par l'effroi autant que par un désir incandescent, bref, la tactique d'approche pour la morsure se fait sans dialogue, mais elle n'est pas silencieuse pour autant. Car dans un film de la Hammer, la musique tient le premier rôle. Tandis que le vampire s'avance lentement, la bande-son est là pour anticiper les images à suivre. Elle annonce la libération des pulsions de Dracula, de la victime et du spectateur. Le compositeur quasiment attitré de la Hammer dans les années 60 et 70 s'appelait James Bernard. C'est lui qui invente la signature musicale tonitruante de la maison. Depuis James Bernard, dans l'imaginaire collectif, un film fantastique a une bande-son qui vous en met plein la vue. Quand il signe le générique du cauchemar de Dracula en 58, James Bernard raconte qu'il voulait détacher les notes comme on égrène les syllabes de ce nom. Dracula. Cuivre, donc, et coup de cymbale. La musique de James Bernard donne de l'emphase à la mise en scène au cordeau d'un grand cinéaste qui s'appelait Terence Fisher. À partir de 58, Fisher va montrer des choses restées invisibles jusqu'ici, et notamment le désir des femmes. En 66, dans Dracula, Prince des Ténèbres, Barbara Shelley se jette sur son beau-frère, bouche ouverte, et lui murmure «
Let me kiss you. »
Laisse-moi t'embrasser. Quelques minutes plus tard, ce sont des moines qui tentent de neutraliser cette furie en l'allongeant sur une table, et la bande originale joue avec ses halètements. En 58, en faisant du sexe le sujet de ses films, la Hammer fait voler en éclats les pudibonderies de l'Angleterre victorienne. Et quand ces réjouissances débarquent en France, ça ne plaît pas à tout le monde. Les communistes trouvent que l'horreur fantastique détourne les spectateurs de l'horreur politique du monde réel. Les catholiques condamnent ces films, où les filles envoient valdinguer des crucifix pour s'offrir à Dracula, devenu Don Juan des Carpates. Et dans les pages du magazine Radio Cinéma Télévision, ancêtre de Télérama, le critique Jacques Siclier s'indigne et parle, je cite, « d'un attentat caractérisé à la dignité du public ». Tout au long des années 60, la Hammer sème les graines de la libération sexuelle. Elle pose les jalons d'une pop culture qui conteste les carcans de l'ordre établi. Au même moment, la jeunesse se choisit pour idole, non pas un gars qui montre les dents, mais qui tire la langue. L'antre de la Hammer et l'art de la Hammer ont paru aux éditions Aquileos, qui publie aussi les meilleures bandes originales en vinyle. Je vous signale enfin la réédition d'une revue culte qui a célébré l'art de la Hammer, c'est Midi Minuit, réunie en deux volumes chez Rouge Profond.
Merci à vous Rebecca Manzoni, à demain pour une nouveauté musicale.